Et l'invité de la matinale, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, député La République en marche du Finistère.
Bonjour Richard Ferrand.
Bonjour madame.
La présence de l'Iran en marge du G7 est considérée comme un coup diplomatique, voire un coup de poker. C'est le cas ?
Je ne crois pas qu'on puisse parler de coups de poker ou quoi que ce soit. Simplement, le G7, ça sert à partager les complexités du monde entre les différents chefs d'État et de gouvernement. On sait bien qu'un des enjeux, c'est la paix, que la situation en Iran aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de tensions. Et par conséquent, tout ce que le président de la République française peut apporter pour déminer, pour éviter que les tensions augmentent, est naturellement utile. Et vous savez, ça a des répercussions très concrètes. Parce que parfois, nos compatriotes se demandent ces grandes réunions de chefs d'État, à quoi ça sert. Vous savez, si demain, en Iran, les choses devaient se tendre plus encore, eh bien, très concrètement, le litre de gasoil ou le litre d'essence, il passerait vite les 2 euros. Donc vous voyez, le global, c'est le local.
No comment, no comment, Richard Ferrand a répondu sèchement à Donald Trump pour un début de dialogue, c'est court. Est-ce vraiment la bonne méthode de procéder ainsi ? Certains parlent d'une diplomatie spectacle.
Oui, vous savez, il y a toujours des pisse vinaigre lorsque vous prenez des initiatives fortes, c'est ainsi. Mais je crois que le président Trump a clairement exposé sa position, qui est une position dure vis-à-vis de l'Iran, on le sait, et on sait que d'autres, et c'est le cas du président français, pensent que c'est le dialogue qui permet de créer la paix, qui permet de donner des garanties de stabilité sur cette région.
Mais le chemin
monde.
Est long.
Et par conséquent, je constate que le président Trump n'a pas fait de commentaire, mais j'ai envie de dire, tant mieux.
Vous savez que le non-commentaire est souvent un commentaire. Alors ce sommet...
Il est des silences éloquents, vous avez
n'est-ce
raison.
Pas ce sommet, Richard Ferrand, il a été en partie consacré à l'Amazonie. La tension reste vive entre la France et le Brésil. Ce matin encore, le président Bolsonaro s'en est pris au président français et à son épouse. Ça vous inspire un commentaire ?
Non, moi je ne suis pas là pour commenter. Je crois que le président de la République a mis les enjeux au bon niveau. Aujourd'hui, on sait bien que la forêt amazonienne est à la fois une source d'oxygène pour la planète et en même temps un lieu de capture de ce qui nuit et qui est le carbone qui fait que le réchauffement climatique se produit. Par conséquent, il y a une responsabilité mondiale autour de cette forêt amazonienne. Et rappelons que par la Guyane, le président l'a dit, la France est un des pays d'Amazonie.
Mais vous avez raison, mais l'indignation. Notre indignation, Richard Ferrand, n'est-elle pas sélective ? Pourquoi si peu de bruit, si peu de réactions, alors que l'Afrique centrale ou encore la Sibérie subit d'immenses feux de forêt ?
Non, c'est parce qu'il y a des choix politiques de déforestation qui sont faits
politique.
Au Brésil, qui nuisent à l'ensemble de l'humanité et de la planète. Il est donc normal d'attirer l'attention des gouvernements sur les choix qu'ils font.
Peut-être aussi que politiquement, c'est plus facile et porteur de faire la leçon au populiste Bolsonaro.
Bon, je ne crois pas qu'il y ait de tri sélectif en la matière. Je crois que l'enjeu, il est de dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi lorsqu'on a conscience des enjeux liés au réchauffement climatique. Et que par conséquent, il faut en appeler aux responsabilités de tous. Je crois que c'est dans cet esprit que les choses se font. Il y a d'ailleurs des décisions qui ont été prises au G7 pour prêter main forte à la Colombie, à d'autres pays, etc., qui font face à des difficultés. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ne soit pas dans le déni du réel et que le gouvernement brésilien prennent toutes ses responsabilités puisque, oui, c'est une responsabilité planétaire qui lui incombe.
Je voudrais ouvrir une parenthèse, mais elle est importante. On parle beaucoup des forêts. Il ne faut pas oublier les océans, l'or bleu. Il y a une sorte de G7 des mers à Brest que vous préparez. Il ne faut pas oublier ce sujet.
Alors, le G7 des présidents d'assemblée.
Là encore, on attend du concret.
Que je réunis à Brest.
Les paroles, c'est bien, les actes.
Que je réunis à Brest les 6, 7 et 8 septembre vont porter justement sur les enjeux des océans. Songez quand même que les mers et les océans, c'est 70% de la surface de la planète. Que 60% de la population vit à moins de 100 km d'une côte. Et que 80% des transports de marchandises se font par bateau. Alors, la mer, les océans, il y a des enjeux énormes qui sont liés évidemment à leur préservation, ça c'est une dimension écologique, mais aussi c'est là qu'il faut veiller à la ressource pour l'alimentation, mais c'est aussi un horizon formidable de recherche.
Richard Ferrand,
en
on
matière
suivra
de santé.
Ce G7 aussi.
Et par conséquent, ce G7 des assemblées parlementaires, il va servir à porter une espérance de gouvernance mondiale de ces océans. Et croyez bien que ce thème a enthousiasmé l'ensemble des présidents de chambre.
Je vais vous parler d'autre chose. Je ne sais pas si c'est enthousiasmant. Votre rentrée, la réforme des retraites, les suites du CETA, le projet de loi bioéthique de PMA, la crise des urgences. Dites-nous, quelle réforme, quel chantier est le plus sensible à porter selon vous ? Lequel vous paraît être le plus délicat, voire inflammable ?
Non, ils sont tous passionnants et nécessaires.
Inflammable.
C'est une manière anxiogène de voir les choses. Vous savez, je remarque que chaque fois, à chaque rentrée, il y a une sorte de ritournelle qui consiste à dire, voilà, la rentrée ceci, la rentrée cela, il faut s'attendre au pire, etc. Non, il faut travailler. Il y a des réformes importantes à travers la réforme des retraites notamment. Qu'est-ce qu'on veut ? Nous l'avons répété, moi j'ai fait une centaine de meetings pendant la campagne électorale, nous avons dit nous voulons que 1 euro cotisé par chaque Français ouvre le même droit lorsqu'il est en retraite. Aujourd'hui, avec 42 régimes différents, il y a des disparités, il y a des injustices. Donc, il faut à la fois donner un horizon sur ces retraites, créer de la justice et dire aussi aux jeunes qui pensent qu'ils n'auront jamais de retraite, que évidemment ils auront une retraite. Donc ça c'est un enjeu très important. Et déjà, Jean-Paul Delevoye a mené un travail de concertation très approfondi qu'il faut continuer, parce qu'il faut continuer à transformer avec
Richard
les Français.
Ferrand, c'est votre nouveau mantra, si je peux me permettre. Vous avez dit concertation, consultation, écoute, humilité, vous avez parlé de ritournelle tout à l'heure. Est-ce que c'est pas également une ritournelle de rentrée justement ? Combien de gouvernements ont parlé de consultation, justement d'écoute ?
Parler, il faut vérifier les actes. Monsieur Delevoye, ça fait 2 ans qu'il mène un travail extrêmement approfondi. Donc, c'est pas de la parlotte, hein, c'est du travail avec les organisations syndicales, les branches professionnelles, les experts de ce sujet. Donc, c'est du travail très concret qui a débouché sur un certain nombre de propositions qui, maintenant, doivent aussi être mises en débat. Parce que les retraites, ça concerne toutes les générations et toutes les professions.
Mais je note que vous avez cité plusieurs fois Richard Ferrand, monsieur Delevoye. Oui. Faut-il y voir le signe, ça y est, de son entrée, il est sur le palier du gouvernement.
Mais écoutez, moi, ça, c'est pas mon travail.
Oh, vous le savez.
C'est le président de la République qui nomme des ministres sur proposition du Premier ministre.
Mais je sais que vous allez nous confirmer un remaniement, ou plutôt un changement qui se prépare.
Puisque vous me parlez de retraite, comment aurais-je pu ne pas évoquer M. Delevoye qui porte cet enjeu depuis ? Vous me parlez ensuite de la bioéthique, qui est aussi un sujet très important. Mais là aussi, il ne faut pas que l'on parle que de la PMA. La PMA est un aspect. Mais tout ce qui concerne la recherche sur les cellules souches, par exemple, qui vont permettre des progrès scientifiques importants.
Richard Ferrand, donc, ce ne sont pas des questions politiciennes quand je vous demande si M. Delevoye rentre dans le gouvernement. C'est important pour vous, c'est un homme de poids dans les retraites. Est-ce qu'il doit défendre ce projet si sensible et si important dans le gouvernement ?
Pardon, je ne veux pas faire de langue de bois, mais ce n'est pas mon job à moi de nommer des ministres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Mais est-ce que
ce
vous
que je peux vous dire, c'est que Jean-Paul Delevoye le porte très bien, ce sujet. Il a, par son expérience, etc. Et si le gouvernement décidait de s'enrichir de sa présence, je ne ferais pas partie de ceux qui le regretteraient.
Cédric Villani s'apprête à se lancer dans la bataille de Paris en vue des municipales. Diriez-vous qu'il est cohérent avec lui-même et avec ses ambitions ?
Vous savez, Cédric Villani est un mathématicien, et j'espère qu'il sera également...
Grand mathématicien.
Oui, un immense mathématicien qui a eu la médaille Field, vous avez parfaitement raison. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit bon calculateur, si je puis dire.
C'est-à-dire...
Par conséquent, il y a des choses simples, vous savez, dans la vie politique. La division, c'est l'échec. Le rassemblement, c'est la victoire. Donc Cédric Villani, qui est une personnalité singulière, qui a une manière d'aborder les choses qui est très intéressante, eh bien, il doit, comme d'autres, se rassembler autour du candidat Benjamin Griveaux, que La République En Marche a décidé d'investir pour Paris.
Ça veut dire qu'il doit mettre le petit doigt sur la couture du pantalon.
Non, mais pourquoi parler sur un mode militaire ? C'est pas ça le sujet, madame. Le sujet, c'est que, vous savez, Cédric Villani, il a été investi par La République En Marche. C'est comme ça qu'il est devenu député. Et à l'époque, il n'a pas contesté le choix de la commission d'investiture. Donc là, la commission d'investiture a dit « Nous estimons que c'est Benjamin Griveaux qui doit porter à Paris les projets de La République En Marche. Par conséquent, Cédric Villani doit apporter sa contribution. » Vous savez, moi j'aime le rugby, et ce qui permet d'avancer, c'est le pack. Et c'est quand on pousse tous ensemble qu'on arrive à sortir la balle.
Flèche, n'est-ce
et
pas
par conséquent, je pense que Cédric a
Richard
toute sa
Ferrand.
Place, et c'est ce que je souhaite.
Merci. Tiens, une dernière question. Est-ce que vous avez fait vos courses hier ?
Hier,
les courses d'appoint, le dimanche, avant la rentrée.
Non, hier, c'est pas moi qui ai fait mes courses. C'est
non, mais je n'ai pas envie de tout savoir, mais si vous étiez à Angers, à l'Hyper Casino, il n'y avait ni caissier ni caissière, que des caisses automatiques. Pour vous, c'est un progrès ou une déshumanisation galopante ?
Si j'ai bien compris, c'est une expérimentation dont on saura si elle répond à l'une ou à l'autre des qualifications que vous venez de suggérer.
Merci Richard Ferrand d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.
Partager les complexités du monde, c'est à ça que sert le G7, c'est ce que disait Richard Ferrand il y a quelques instants. On va reparler de ce sommet du G7 et puis on va reparler de politique des municipales à Paris. Benjamin Griveaux est l'invité de David Doucan ce soir à 19h10 dans votre grand journal du soir. Merci Sonia Mamou.
Merci à vous, c'est un plaisir, avec grand plaisir.
Bonne rentrée à vous.